Allez, bonsoir à tous. On commence par souhaiter un grand mazel tov à notre ami Rudy, qui a eu un petit garçon aujourd'hui.
Donc,
Rudy Bokara, notre ami. Mais Zod Hachem, qu'il y a une grande réfoua chez les mains pour la maman et que la Brit Mila puisse se passer en son temps. Mais Zod Hachem. Celui qui est là toutes les semaines, à côté de moi, qui enregistre. Rudy. Allez, on y va. On va ce soir dire et concentrer notre cours sur le texte du Kol Nidré que l'on lit tous les ans à l'entrée de Kippour. Ce texte-là est dans l'esprit et dans l'inconscient communautaire. C'est un texte qui est très important, on est bien d'accord. On se donne rendez-vous à Kol Nidré, d'accord. Quand on convoque, quand on donne les horaires, etc., tout le monde demande à quelle heure Kol Nidré. Pourquoi c'est un texte important? Kol Nidré, c'est à Tarat Nedarim, quoi, dans la tête des gens. J'annule mes vœux, je veux commencer Kippour propre. D'accord, donc tous les vœux qui sont sur mon truc là, d'accord, je veux m'en débarrasser parce que Kippour, c'est l'accapara et tout. D'accord, mais justement, ça, on va en parler.
Non, on a fait juste avant Kippour, dans la journée qui précède, dans la matinée
de Rosh Hashanah qui précède.
Tu veux dire les 10 jours qui précèdent?
Veille de
Rosh Hashanah. Tu veux parler de veille de Rosh Hashanah. Donc 10 jours plus tôt. Non, veille de Kippour, ça n'existe pas. C'est un truc en plus. D'accord, donc c'est bien ce dont on va parler.
Et quand vous faites aussi à Kol Nidré, à l'heure de Kol Nidré, c'est pareil qu'au doute, genre 9h, on commence au doute. Pour moi, je pensais que c'était pareil. On commence.
Eh ben, on commence à Kol Nidré. Enfin, Kol Nidré, c'est le dur.
Mais je pensais que c'était juste. On commence.
Non, parce que quand tu dis 9h au doute, il y a des trucs avant.
Ah oui.
Il y a des trucs avant. Mais Kol Nidré, il n'y a rien avant. Ça commence Kol Nidré, c'est le point de rendez-vous. Les gens vont faire un effort pour arriver à Kol Nidré. On va attendre que les gens arrivent pour faire Kol Nidré.
Parce que même avant,
dans l'esprit des gens, Kol Nidré, c'est un truc de Kippour qui est essentiel, quoi. D'accord, on rate pas Kol Nidré. Et en fait, ce test de Kol Nidré, c'est vraiment, il est tout aussi problématique qu'emblématique. Emblématique parce que je vous l'ai dit. Tout le monde vient à Kol Nidré, ça représente l'annulation des vœux avant de commencer Kippour, etc. Problématique, parce que, en réalité, nos Chachamim se posent la question : quel est le sens de ce Kol Nidré ? Premièrement, il n'y a aucune source dans la Gemara d'un passage qui s'appelle Kol Nidré. Nulle part dans tout le Chas, dans toute la Gemara, nulle part on nous parle de cet office tellement important, a priori, hein, veille de Kippour, pour commencer la journée, de faire un texte de Kol Nidré. Nulle part. C'est pas une tefila, c'est pas considéré comme une tefila. C'est pas considéré non plus comme un vidouille, parce qu'on pourrait dire peut-être c'est un vidouille. D'accord, à Kippour, on fait plein de vidouilles. D'accord, on se lamente sur nos fautes, etc. C'est pas un vidouille, Kol Nidré. Ça fait même pas partie des 5 tfilotes de la journée de Kippour. Dans les façons de compter les tfilotes de Kippour, il n'y a pas Kol Nidré. Donc ce texte de Kol Nidré, c'est un peu un ovni. Ça veut dire que il semble être très, très important dans l'esprit des gens. Mais premièrement, il n'apparaît nulle part dans la source de la Gemara, du Talmud. Rien, rien, aucune allusion. C'est d'autant plus surprenant que dans le même... Dans la Gemara en question, on nous parle de la Atarat Nedarim de la veille de Rosh Hashanah. Ça, oui, c'est évoqué dans la Gemara, la Atarat Nedarim de la veille de Rosh Hashanah. Mais à aucun moment dans la Gemara, on nous dit qu'on commence Kippour avec une Atarat Nedarim d'un texte qui s'appelle Kol Nidré. Ça n'est écrit nulle part dans toute la Gemara.
Est-ce que c'est pas une introduction pour après avec les fauteurs aussi
Non, pas le texte de Kol Nidré. Pas le texte de Kol Nidré.
Mais c'est inclus dans Arvit
Et non, justement, c'est pas une tefila. Kol Nidre n'est pas une tefila. Il ne compte pas.
C'est pas comme le cantique des cantiques.
Non, non, quoi que, je sais même pas si on peut faire ce genre de comparaison, parce que le cantique des cantiques, non plus, ça ne fait pas partie de la tefila. Ouais. Mais le Kol Nidre, c'est premièrement aucune allusion dans la Gemara. En plus, bah, c'est pas une tefila, c'est pas un vidouille, c'est pas un office. C'est pas grand chose en réalité.
Est-ce qu'on peut placer une Kabbalat Kippour ?
Non plus. Non plus. Quoi ? Pourtant, dans l'esprit des gens, on est bien d'accord que tu parles de Kol Nidre aux gens, même ceux qui sont très éloignés, même les trucs. Kol Nidre, c'est important. Kol Nidre, le soir de Kippour. Et même plus que ça, si on rentre vraiment dans la, si on rentre vraiment dans la halakha, on voit quoi ? On voit que déjà, la première source que l'on a d'un texte de Kol Nidre, la source apparaît au 8e siècle, donc c'est relativement tard dans notre histoire, mais elle n'est pas évoquée pour nous dire « il faut faire Kol Nidre », la source en question. C'est une source qui nous dit que dans les communautés, on a pris l'habitude de faire Kol Nidre pour commencer Kippour, mais que c'est une erreur halakhique. Voilà la première apparition du texte de Kol Nidre dans notre tradition rabbinique. C'est incroyable. Et on peut charger encore plus l'attaque sur trois points, ou plutôt deux halakhiques. Le premier point, c'est que nos chachamim se demandent, parce que Kol Nidre, a priori, c'est une atarat nedarim. Mais nos maîtres nous disent, halakhiquement, ça ne colle pas. Ça colle pas du tout.
Atarat nedarim, il faut qu'il y ait un bet din.
Merci.
Et ensuite,
parce que une atarat nedarim, on sait à quoi ça ressemble une atarat nedarim. On le fait veille de Rosh Hashanah. Là, c'est écrit. On le fait dans nos communautés. Il y en a trois qui s'asseyent. Il y a tous les autres qui sont en face. Il y a un texte précis. Il y a une demande de la part des gens qui sont debout. Et il y a un texte qui est récité par ceux qui sont assis, etc. Ça, c'est une atarat nedarim. Mais de faire comme ça de manière collective, communautaire, un texte où on est tous debout, il n'y a personne qui est assis devant nous pour faire un beddin. Et ce n'est pas du tout le texte habituel du Natarat Nedarim. Donc, halakhiquement, ce Kol Nidre-là, ce n'est pas une Natarat Nedarim. D'ailleurs, se pose la question, c'est un sujet en soi, de savoir, mais qu'est-ce qui est englobé par le texte de Kol Nidre ? A priori, rien. D'accord, donc c'est très bizarre. C'est une atarat nedarim qui n'en est pas une vraie et qui n'englobe en réalité aucun véritable neder.
Et pourquoi ça s'est répondu si c'était une faute à l'arrêt aussi ?
Donc on y arrive, c'est bien le but de notre cours. Rabbeinu Tam, il écrit, lui aussi considère que c'est problématique de faire comme ça une sorte d'annulation collective mais sans bet din en face. Il dit que ça colle pas et il dit « Combien même ?» On pourrait trouver une solution pour dire que ça colle, que c'est oui une atarat nedarim. Il nous dit, je ne vois pas comment dans cette formule et dans cette façon de faire, on peut faire une atarat nedarim sur les nedarim de l'année écoulée. Ça pourrait, à la rigueur, être un engagement pour l'année à venir. Ça, on peut entendre. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les gens se lèvent et ils disent... Si jamais, dans l'année qui arrive, je prends un engagement, je veux que ça soit blinéder. Je veux que ça soit pas un vœu. Rabbeinu Tam nous dit, à la rigueur, on pourrait l'entendre comme ça. À tel point, si vous remarquez dans vos sidourim et que vous allez quelques mois en arrière quand vous avez fait Kippour, si vous voyez dans certains sidourim, vous savez, il y a une phrase qui est un peu bizarre dans le Kol Nidre, où on dit... Depuis le Kippour de l'année dernière jusqu'à ce Kippour d'aujourd'hui. Et de Kippour d'aujourd'hui jusqu'au Kippour de l'année prochaine, cette phrase-là, dans certains livres, elle est entre parenthèses. Parce que effectivement, de dire depuis Kippour dernier jusqu'à ce Kippour, c'est problématique d'après Rabbeinu Tam, parce que nous dit que ce n'est pas une véritable atarat nedarim. Effectivement, une véritable atarat nedarim avec un tribunal, etc., on peut annuler les vœux passés. Mais là, il n'y a pas de tribunal. Donc la seule chose à laquelle tu pourrais te défaire, ça serait les vœux futurs de l'année à venir. Mais il n'empêche que, dit Rabbeinu Tam, ça colle pas, ce Kol Nidre, ça colle pas. C'est pas une atarat nedarim, d'accord ? Ça ressemble pas à une atarat nedarim habituelle. Et donc se pose la question de savoir, bah, qu'est-ce que c'est que ce Kol Nidre? Qu'est-ce que c'est que ce Kol Nidre? De quoi, de quoi? Oui, alors ça c'est folklorique.
Ah, ça
c'est folklorique. D'accord.
C'est un
préambule. Ouais, bah on commence le Kol Nidre, on le fait en sortant les sifrei Torah, quoi. Donc, tu vois, ça veut dire qu'on l'a mis, en exergue, quoi, ce Kol Nidre. Donc, dans la tête des gens, il est très important. Dans le rituel, il est très important. On sort les sifrei Torah, machin, on récite Kol Nidre, on chante le Kol Nidre dans la communauté ashkénaze. C'est un truc incroyable, la chanson du Kol Nidre. D'accord. Et donc, du coup.
Il faut aussi Chérian aussi. Bon.
Non, attention, tu vas trop loin, c'est pas Kol Nidre ça.
Non.
Alors pourquoi on le fait
c'est un autre sujet. Quand on sera à Kippour, on se posera la question. C'est un autre sujet complètement différent. Il y a la bracha de Cherkianou. Mais Kol Nidre, c'est Kol Nidre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut commencer Kippour avec Cherkianou. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je parle du Kol Nidre, le fameux texte là, de quelques lignes. Là. Kol Nidre.
Qui c'est qui l'a rédigé?
Oh, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Je sais même pas si on sait d'ailleurs. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Même mieux que ça. Petite vision un peu. Historique juive qui a quand même marqué notre histoire. Vous savez que ce Kol Nidre, au Moyen Âge de la chrétienté, donc là où on a vécu pendant tant et tant d'années, aux yeux des chrétiens, le Kol Nidre a été considéré comme étant la preuve que l'on ne pouvait pas se fier au témoignage d'un juif. Parce que les juifs sont tout le temps perfides et qu'ils ne respectent pas leur engagement, pour preuve, ils commencent leur journée de Kippour, la journée la plus importante de leur tradition, par annuler tous leurs engagements. Aux yeux de la chrétienté, le Kol Nidre est une source d'accusation terrible en disant « Regardez ces juifs !» Il s'engage vis-à-vis de nous en faisant des prêts d'argent, en empruntant de l'argent, en allant aux tribunaux, etc., dans notre vie du quotidien. Mais on ne peut pas se fier à leurs paroles, puisque tous les ans, lorsqu'arrive Kippour, ils se défont de tous leurs engagements financiers, etc., etc. Donc, les chrétiens ont tourné ce Kol Nidre contre les communautés juives, et ils en sont arrivés à instaurer contre les juifs ce que l'on appelle le moré judaïco. Le moré judaïco, c'est ce qu'on appelle également, mais en français cette fois-ci, le serment réservé aux juifs. C'est-à-dire qu'au Moyen Âge, lorsqu'un juif se retrouvait dans un tribunal non juif pour une affaire, pour un engagement, etc., etc., tous les cas où on se retrouvait dans un tribunal, dès qu'il y a un juif qui se retrouvait au tribunal, on avait en tête que les juifs, ils ont une parole sur laquelle ils sont très, très légers, puisque Kippour, ils se défendent de leurs engagements. Du coup, on leur faisait faire un serment spécial pour qu'ils soient terrifiés et qu'ils ne leur passent pas par l'idée d'annuler leur parole. Ça s'appelle le moré judaïco.
Espagne, ça, non ?
Je ne sais pas de quelle est l'origine du mot. Mais c'est plus qu'en Espagne. Je vous ai sorti quelques sources. Parce que c'est quand même à lire, hein, c'est historique. Hein. C'est quand même à savoir. Par exemple, au Xe siècle, dans l'Empire byzantin, écoutez ça. Le juif doit prêter serment avec une couronne d'épines autour de ses reins. Se tenir dans de l'eau et jurer par leur dieu qui a été transmis dans leur langage à eux, Barasebara. Le Barasebara, c'est le dieu Bereshit Bara, le dieu de la création. De façon à que si jamais il ne dit pas la vérité ou s'il a l'intention d'annuler son vœu avec le Kol Nidre des Juifs, là, qu'il soit avalé par la terre comme Datan et Aviram lorsqu'ils sont engloutis par la terre, maudits par Moshe. Ça veut dire que s'il te passerait par l'idée d'annuler ton vœu par le Kol Nidre que tu vas faire, toi, le juif, là-bas, à Kippour, tu te rajoutes une couche de terreur supplémentaire en disant « Non, 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 si jamais j'annule mon vœu, j'aurai tous les malheurs du monde, la terre va m'engloutir comme Datan et Aviram. »
Donc, à cette époque-là,
y a des bassins d'eau.
Oui, oui, oui. On prend le juif, on le sort, on le met dans un bassin d'eau, de machin. D'accord. Oui, oui. Historique, hein. C'est historique, hein. C'est historique, j'ai pas fini. Au XIIe siècle, à Arles, on n'est pas très loin, à Arles, quand un juif venait au tribunal pour témoigner, toujours à cause de ce kol nidré que les goyim avaient en tête en disant que les juifs ne tiennent pas leur parole, une guirlande d'épines est enfilée autour du cou du juif qui vient jurer. Et il y avait d'autres branches d'épines qui entouraient ses genoux. Et il devait prendre dans sa main un livre de Torah et dire que si jamais il annulait sa parole, par le kol nidré, sous-entendu, que tous les malheurs écrits dans la paracha de Kitavo lui tombent sur la tête. Bien sûr, mais évidemment que oui. Chrétienté véritable, tu rigoles ou quoi? Connaissance du texte, c'est le même texte que le leur. Bien évidemment, bien oui. Dernier exemple. Au XIIIe siècle, un juif qui vient prêter serment dans un tribunal non-juif devait se tenir debout sur une peau de truie morte, ensanglantée, en... Donc forcément, hein, le juif avec un porc machin, d'accord, classique, dans les accusations machin, en disant que si jamais il annule sa parole... Eh bien, il sera comme cet animal, mort, etc., etc. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ce truc-là, il a duré pendant tout le Moyen-Âge.
Ils ont le sens de la mise en scène.
Ah, ils sont bons. Tout le Moyen-Âge. Hein. Il y a des tas d'autres exemples qui sont donnés en Hongrie, etc., etc. D'accord ? Plein. Donc, le kol nidré, qui pour nous est un truc comme ça très emblématique, en fait, même... Dans le monde chrétien, on a entendu parler de ce kol nidré et c'est perçu effectivement de manière négative en disant bah, tu vois, c'est la preuve que les juifs ne tiennent jamais leur parole. Ils ne sont pas dignes de confiance puisque ils se défont de leurs vœux d'une année sur l'autre. Certains nous disent que le kol nidré, il a pris comme ça de l'ampleur à l'époque de l'exil des juifs d'Espagne et du Portugal. Comment ? Parce qu'à ce moment-là, malheureusement, à cause des persécutions chrétiennes, encore une fois, les Juifs n'avaient pas d'autre choix que de se laisser tuer ou de se convertir à la chrétienté. Il y a les Maranes, les Conversos, etc.
C'est plus en Espagne qu'en Italie, non ?
J'ai dit Espagne ?
Portugal.
Ouais, j'ai dit Espagne, Portugal. Bah, c'est les deux. 92-96. 1492-1496.
Bordeaux est
bah oui, bien sûr, les Juifs sont retrouvés là-bas, bien sûr. Et alors ? Certains nous disent que le kol nidré, il a pris comme ça de l'ampleur à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que les Juifs qui se sont convertis de force, en faisant un peu semblant, tous les ans, ils se cachaient dans les synagogues à Kippour, ils allaient en cachette à la synagogue à Kippour, pour dire le texte du kol nidré, en disant, Hachem, si on a pris sur nous une nouvelle religion... C'est parce qu'on était forcé, mais qu'on ne veut pas que ce soit un éder. On ne veut pas, nous, de cette nouvelle religion. On se défait de cette parole-là, de cet engagement-là. Et donc, certains nous disent que le kol nidré, il a pris comme ça de l'ampleur à cette époque-là où il y a eu ces persécutions contre les Juifs en Espagne et au Portugal.
Et en Espagne, il n'y a pas de cimetière juif jusqu'à éradiquer...
Ah, ils ont retiré carrément.
Ils ont retiré.
Ouais, je veux bien croire.
Je sais pas si au Portugal pareil. En Espagne, on peut pas aller voir un cimetière comme elle est comme nous.
Possible.
Un seul juif, il n'y a pas en Espagne.
Isabelle la catholique.
Ouais, exactement. Du coup, se pose la question de savoir d'où est-ce qu'il sort ce kol nidré. Pourquoi on fait Kippour ? À Kippour, on commence par le texte du kol nidré. D'où sort ce texte de kol nidré ? Et là. On va plonger dans un sujet qui est absolument passionnant, que j'ai trouvé vraiment passionnant, un ridouche incroyable pour moi, sur ce qui justifie la récitation du kol nidré pour commencer Kippour. Et bien évidemment que c'est avec la paracha qu'on a lue cette semaine. C'est pas par hasard qu'on parle de kol nidré, hein, c'est pas Kippour cette semaine. Je sais que tu commences à t'inquiéter là. D'accord ? Non, c'est pas cette semaine. Mais il y a une source avec la paracha de la semaine.
C'était quand même pour une katane.
Il est clair que dans la paracha de la semaine, on ne parle pas explicitement de la journée de Kippour. C'est sûr. Mais implicitement, bien évidemment qu'on parle de Kippour dans la paracha de la semaine. Comment ? Bah oui. Je vous rappelle. Non, c'est... Enfin, ouais, Shabbat, qui dit ça ? Le veau d'or. Comment on arrive à Kippour ? Eh bien, on a reçu la Torah le sixième jour du mois de Sivan. Bien. Moshe, il reste sur la montagne pendant 40 jours. Il descend le 17 Tamouz. Le 17 Tamouz, c'est le veau d'or. Il voit le veau d'or, il voit tout le monde danser autour, etc. Il prend les tables, il brise les tables sur le veau d'or. Bien. C'est la panique. Moshe va demander le pardon pour la faute du veau d'or. Il va remonter, il va rester 40 jours. Il redescend. On est le premier du mois de Elul. Il remonte à nouveau. Encore une fois 40 jours, pour avoir le pardon complet pour la faute du veau d'or. Et on va arriver le 10 Tichri. Le 10 Tichri, ce qui va devenir le jour de Kippour, le 10 Tichri, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, « Salarti kidvarecha, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé, c'est bon, tout est net, tout est propre. » Et il lui donne les nouvelles tables de la loi. D'accord ? Donc les nouvelles tables de la loi dont on parle dans la paracha de la semaine, d'accord ? C'est bien sûr avec Kippour, c'est la journée de Kippour. Bien, ok. Donc oui, bien sûr, on parle de Kippour dans la paracha de la semaine, c'est évident. Et du pardon, et de la deuxième chance, etc. C'est un des thèmes de la paracha de Kittissa, c'est sûr. Mais, il y a un thème là-dessus qui est extrêmement intéressant. Écoutez ça. Vous savez que lorsque Moshe se tourne vers Dieu pour l'implorer de ne pas anéantir le peuple d'Israël, le mot qui est utilisé par Moshe, il est extrêmement célèbre parce que c'est la paracha qu'on lit tous les ans pendant les jours de jeûne. Vaïchal Moshe. Vaïchal Moshe, le pshat, le sens littéral de ce mot, Vaïchal, c'est implorer. Moshe implore à Kadosh Baruch Hu. Je t'en supplie, n'anéantis pas le peuple. Il donne toutes les raisons du monde. C'est dans la paracha de la semaine. Que diront les nations du monde si tu nous anéantis ? Elles vont dire que c'est parce que tu n'étais pas capable de nous amener en terre d'Israël que tu nous as fait mourir dans le désert. Donc du coup, le Chilul Hashem sera encore plus grand que ce qu'il est actuellement à cause de la faute du veau d'or si tu nous anéantis dans le désert, parce que les nations du monde vont faire un Chilul Hashem contre toi en disant que tu n'es pas un grand Dieu parce que tu n'es pas capable de protéger ton peuple et de les amener jusqu'en Israël, comme tu l'avais promis. Moshe rajoute en disant « Si j'ai le moindre mérite entre mes mains, je préfère que tu le fasses passer sur le compte des enfants d'Israël pour ne pas les anéantir, plutôt que de les garder pour moi. Et que s'il le faut, je préfère que tu effaces mon nom plutôt que tu effaces le nom des peuples d'Israël. » Donc Moshe, il y va franco. Vaïchal Moshe, il implore à Kadosh Baruch Hu. Bien. Et là, il y a un midrash incroyable. Il faut vraiment que vous l'ayez en tête si vous ne l'avez jamais entendu. Moi, je ne l'avais jamais entendu. D'accord ? Je l'ai découvert cette semaine. Voilà ce que nous dit le Midrash. Il nous dit « Vaïchal Moshe ». Certes, le sens littéral, c'est implorer.
C'est commencé, non ?
Ça aurait pu être aussi commencé, mais là, c'est pas le Midrash, il ne parle pas de ça. Le Midrash, il rapporte le mot « Vaïchal » d'un autre mot qui ressemble bien évidemment qu'à la même racine, mais sur lequel on est de manière très, très surprenante, très inattendue. Il nous dit comme ça. Ça vient du mot Yachel. Ouais, toujours la même racine, bien sûr. Ça veut dire quoi, Yachel ? Si je rajoute un mot, vous allez penser tout de suite à une paracha de la Torah. Non. Lo ye Yachel et Devaro. C'est quoi ? Où est-ce qu'on parle de ça ?
Dans le Ah, mais ça compte pas, lui, il fait les signes, il a quand même
pas. Non, mais il fait que les signes, lui. En réalité, c'est la paracha de Matot. Quand on nous parle des neders, quand on nous parle des vœux, là-bas, il est écrit que lorsqu'un homme fait un vœu, Lo yachel Devaro. Ah! Lo yachel devaro, tu n'as pas le droit de revenir sur ta parole. Une parole, c'est un engagement d'après la Torah. C'est la fameuse, le fameux sujet du neder. Le neder, c'est que tu as dit un mot, ça y est, c'est fini. Tu t'es engagé par ta parole, c'est terminé, tu es tenu par ta parole. Et donc le Midrash, écoutez cet enseignement qui arrive, il va créer un lien entre Moshe qui va défendre le peuple d'Israël et la notion du Neder. Comment ? Quel est le lien ? Écoutez ça. Amar Rabbi Berachia, Beshem Rabbi Chelbo, Beshem Rabbi Yitzhak. Bécha, chez Asou Israël à Egel, au moment où les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, Amad Moshe, Mefayes à Elohim, chez Imchol Lahem. Moshe, comme je vous l'ai dit, il s'est levé face à Dieu et il a essayé d'implorer à Kadosh Baruch Hu pour les défendre. Très bien. Le problème, Amar à Elohim, Dieu lui dit, Moshe, Kvar Nishbati. Il dit, Moshe, je peux rien pour toi, je suis désolé. Je l'ai dit. Je l'ai dit. J'ai dit que j'allais anéantir le peuple d'Israël. C'est terminé. La décision est prise. C'est ma parole. Et d'ailleurs, c'est pas simplement que je l'ai dit maintenant. C'est que j'ai donné comme règle dans la Torah Zoveyach la Elohim Yachoram. Que celui qui fait, qui se consacre à l'idolâtrie, qu'il soit anéanti. Je l'ai écrit dans la Torah. Je suis désolé, je suis coincé. Je peux pas aller à l'encontre de ma parole. Moi-même, dit Akadosh Baruch Hu, je suis tenu par ma Torah. On a plein d'enseignements de ce genre-là. Akadosh Baruch Hu est obligé de respecter les halachot qu'il a lui-même imposés dans la Torah. Donc il dit, je suis désolé, moi, je l'ai déjà dit. Tu viens m'implorer, me demander, je peux rien faire pour toi. J'ai écrit dans la Torah que l'idolâtrie entraîne la mort et j'ai dit moi-même, après, en voyant la faute du veau d'or, j'ai dit que le peuple d'Israël doit être anéanti. Je l'ai dit, c'est terminé, c'est trop tard. Védavar chez voix, chez Yatsamipi, et Nimar Ziro. Et Hachem dit, et quelque chose, un serment qui sort de ma bouche, je ne peux pas faire marche arrière dessus. Je suis à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on le dit dans la Megillah. Tout ce qui sort de la bouche du roi ne peut pas être remis en question, ne peut pas être annulé. Et nos commentateurs nous disent, le roi en question, c'est à Kadosh Baruch Hu en réalité. Exactement. Tout ce qui sort de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, ça y est, c'est terminé. Donc Hachem, il dit à Moshe, je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. D'accord, c'est terminé. L'histoire est terminée, on recommencera un nouveau peuple, t'inquiète pas. Mais eux, c'est fini, ils meurent tous. Amar Moshe, Moshe, quand il entend ça, Ribon Haolamim, il se tourne vers Hachem en lui disant, maître du monde, Velo Natatali Afara Shel Nedarim, mais dis-moi, toi-même, ne m'as-tu pas donné dans ta Torah les lois de Atarat Nedarim ? C'est toi qui m'as donné les lois de Atarat Nedarim. Tu me dis que t'es coincé parce que t'as fait un Neder. C'est sorti de ta bouche. C'est sorti de ta bouche et que t'es tenu de respecter ta parole comme c'est écrit dans la Torah. Mais toi-même, tu m'as appris à faire une Atarat Nedarim. Ve Amarta, en disant, Ish ki yidor Neder Lachem, que si un homme fait un vœu vis-à-vis de Dieu, là ici c'est dans l'autre sens bien évidemment, O Shevoua, O Ishava Shevoua, ou bien qui a fait un serment, Lo Yachel Devaro, effectivement, il ne peut pas revenir sur sa parole, Ou Eno Mochel, Aval Chochem, Chacham Mochel Al Nidro, Be'et Sheishal Alav. Quand il est écrit, on ne peut pas revenir sur sa parole, c'est que celui qui a fait le vœu ne peut pas revenir lui-même sur sa parole. Mais tu m'as expliqué que si quelqu'un d'autre, un Talmid Chacham, se retrouve face à la personne qui a fait le vœu, et que celui qui a fait le vœu le demande, eh bien le Talmid Chacham peut annuler le vœu de la personne. Donc, toi tu me dis, t'as fait un Neder, t'es coincé. Mais moi je te dis, mais tu m'as appris à faire une Atarat Nedarim. C'est ta Torah qui me dit à le faire. Et alors ? Ve'atatsivitani ala farat Nedarim. Dinhu chez Tatir et Nedarecha. Puisque tu m'as appris à faire une Atarat Nedarim et que tu m'as dit que c'était possible d'en faire, alors il faut que tu fasses ta Atarat Nedarim. Et alors, Miyad, Nita Atef Moshe Betalito, ve yashav lo kezaken ve akadosh baruchu omed kesho el nidro. Immédiatement, Moshe, il a mis son talit comme un talmid racham. Il s'est assis face à Akadosh Baruch Hu et Hachem s'est tenu devant Moshe et Moshe lui a fait la Nedarim. C'est incroyable. Moshe fait la Atarat Nedarim du Neder de vouloir annuler, exterminer le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu se retrouve forcé à faire une Atarat Nedarim. Et c'est Moshe le premier de l'histoire qui fait une Atarat Nedarim. Et pas à n'importe qui, à Akadosh Baruch Hu. C'est génial, c'est génial. Il n'y a que les Chachamim pour imaginer des trucs pareils.
J'ai quand même une question.
Attends, vas-y.
Il avait prévu ça, Dieu ?
Oui, bien évidemment. Ça, c'est la question que l'on... C'est notre question fil rouge hein, dans tous les trucs. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et alors, et attends. Et donc, du coup... De quoi ? Mais oui, mais c'est ça la force des Midrashim. Le Midrash, c'est qu'il va te sortir du mot Vaïchal, la même racine... que Vayachel, et il te dit, attends, Vayachel, c'est pour les Neder, quel Neder, de quoi on parle, et il va te créer le truc, d'accord, il va te mettre en scène cette scène incroyable, où t'as un Moshe qui fait une Atarat Nedarim à Akadosh Baruch Hu, qui s'était engagé à anéantir le peuple, et qui donc se défait de son engagement, ok, alors attends, je n'ai pas fini, ça veut dire quoi? Parce qu'on est bien d'accord que c'est cet événement-là, qui va permettre d'arriver à Kippour. La Mechila de Kippour, finalement, si on arrive à recevoir le pardon d'Akadosh Baruch Hu, c'est grâce à cet Atarat Nedarim qui a eu lieu. Donc, notre Kippour, il se tient sur un Atarat Nedarim exceptionnel.
Le Kol Nidre, c'est bon.
Et donc, le Kol Nidre, c'est pas une annulation de vœux pour nous, parce que c'est pas valable halakhiquement. Le Kol Nidre, c'est un souvenir. C'est de se dire, je suis là maintenant, dans 5 minutes, c'est Kippour. Je vais commencer Arvit de Kippour dans 5 minutes. Je veux rappeler à Kadosh Baruch Hu que de la même façon qu'il y a tant et tant d'années, il a laissé sa miséricorde prendre le dessus sur sa rigueur et qu'il a fait une Atarat Nedarim sur un décret terrible qu'il avait pris contre nous. Eh bien, j'espère tous les ans me mettre exactement dans les mêmes conditions. J'espère que la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu va prendre le dessus sur sa rigueur et que si jamais il a pris un mauvais décret contre nous en tant qu'individu ou en tant que collectivité, qu'il puisse l'annuler et se rappeler de la Atarat Nedarim qui avait été faite au moment de la faute du veau d'or. Donc le Kol Nidre, ce n'est pas une annulation de vœux pour nous. Le Kol Nidre, c'est puiser effectivement ce qui s'est passé au moment de la faute du veau d'or. Et finalement, ce Kippour qui n'est rien d'autre que la résultante d'un Kol Nidre, d'une Atarat Nedarim qui a eu lieu, que Moshe a fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Fallait-il que ça se passe comme ça? Fallait-il qu'Akadosh Baruch Hu, il laisse passer la faute? Qu'il ne soit pas aussi rigoureux que ça? Le fallait-il? Peut-être que si tu as pris une décision, si le peuple n'est pas à la hauteur, il n'est pas à la hauteur, d'accord, tu as qu'à l'anéantir et le détruire. Et sur ça, il y a un autre enseignement qui est le suivant, qui nous dit, vous connaissez les Tehillim? Dans les Tehillim, il y en a énormément qui commencent par le mot l'amnatseyar. Que signifie l'amnatseyar pour les...
Au vainqueur, j'ai jamais compris.
Merci. Voilà. Bah oui. L'amnatseyar. Menatseyar en hébreu, c'est un vainqueur. L'amnatseyar pour le vainqueur. D'accord. Netzar, etc. C'est le fait de vaincre un combat. Il y a beaucoup de psaumes écrits justement dans cette notion de victoire. Bon, ok. Et le Midrash nous dit, écoutez-le celui-là aussi. Il nous dit, des fois, tu es vainqueur, mais en réalité, tu es un perdant. Et voilà ce qu'il nous dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu, il se plaint en disant, « Kesheani no tseyach ani mafsid, urcheani na tsuach ani mistaker. » Hachem, il dit, il fait un constat comme ça terrible. Il dit, des fois, je gagne, mais en réalité, je suis le plus grand perdant. Et inversement, des fois, je perds, mais c'est moi qui gagne.
Mistaker ?
Ouais, de niveau Sahar, ah. Récompense. Comment c'est possible ? C'est quoi cette histoire ? Si tu gagnes, tu gagnes. Si tu perds, tu perds. Et voilà ce qu'il nous dit. Nitzarti et dora maboul. À l'époque du déluge, j'ai tenu bon ma parole, dit Akadosh Baruch Hu. J'ai décrété d'anéantir le monde. J'ai anéanti le monde, Nitzarti. Je suis sorti vainqueur. C'est moi qui ai tapé du poing sur la table, j'ai rappelé que j'existais. Mais finalement, hifsadti. Et finalement, c'est moi le plus grand perdant. J'ai anéanti une humanité entière. Toutes ces créatures-là, même si elles sont dans la faute, etc., c'est moi qui les ai créées. Il y a ma neshama, il y a ma machin, d'accord ? C'est moi, c'est moi. Donc, j'ai gagné, j'ai tenu bon, etc., mais en réalité, j'ai perdu. Aval, bimé Moshe, chez nous, tsarti. Mais à l'époque de Moshe et du veau d'or, effectivement, on a l'impression que j'ai été vaincu. Moshe, il est venu, alors que j'avais pris une décision d'anéantir le peuple d'Israël, il est arrivé, il a réussi à me changer, faire changer d'avis, etc. Ça donne comme ça une impression que finalement, je suis le perdant dans l'histoire. J'ai pas tenu ma parole, d'accord ? J'ai pas été au bout de mon projet. Asiti Sahar, chez l'Okiliti et Israël. Mais finalement, même quand je suis dans la défaite, en réalité, c'est moi qui gagne. Parce que mon peuple, je ne l'ai pas anéanti. C'est mes descendants à moi. Abraham, Yitzhak et Yaakov, les matriarches, etc. C'est mon peuple, celui que j'ai fait sortir d'Égypte, celui que j'aime. Donc du coup, oui, c'est vrai. Des fois, je suis victorieux parce que je tiens bon, mais c'est moi le plus grand perdant, dit Akadosh Baruch Hu. Et des fois, inversement, on a l'impression que je suis perdant, mais en réalité, c'est moi qui suis gagnant dans l'histoire. Et donc, cette histoire du veau d'or... On pourrait dire, bon alors finalement, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas tenu sa parole, etc. Il n'a pas été au bout de son projet, c'est de la faiblesse. En réalité, ce n'est pas tellement de la faiblesse. Parce que la plus grande victoire qu'il a pu avoir, c'est d'avoir protégé son peuple finalement. Et donc il s'en sort bien, enfin il est content. Il est content de ne pas avoir anéanti les enfants d'Israël.
Mais au final, il y a quand même un message de dire, si vous fautez, je peux vous tuer.
Le message final, c'est, si vous fautez, vous méritez la mort. Mais que malgré tout, vous avez toujours une deuxième chance.
Et une troisième.
Et ouais, 50 en réalité.
Pas 15, mais ça veut dire qu'au final, on...
Tu peux deux fois, mais pas 15.
Attention, s'il y a la teshuva quand même.
Oui, mais là, il y a eu la teshuva que de Moshe.
Ah non, 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 rappelle-toi.
Quand il est arrivé.
Il redescend, il brise les tables. Ouais.
Il brise parce qu'il s'amuse, il n'y a pas de teshuva.
Attends, pour l'instant, il n'y a pas de teshuva. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe là dans les 80 jours qui suivent ? C'est que, avant qu'il remonte la dernière fois, il y a d'abord une étape de teshuva. S'il n'y avait pas la teshuva, il n'y aurait pas eu le pardon.
D'accord.
C'est certain.
Il y en a qui sont morts.
Il y a eu des morts.
Ah oui, bien, bien sûr. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de morts.
Bah, il y a
des morts. Ouais, c'est sûr. Il y a des morts.
Mais ceux qui sont morts,
c'est
le RRV. Ben,
non, pas forcément. On dit que c'est ceux qui dansaient. Donc, c'est pas que le RRV.
Mais il n'y a pas promis qu'il ne puisse plus anéantir.
L'humanité. L'humanité, ça ici c'est pas l'humanité, c'est le peuple d'Israël. Et en plus il le méritait quoi, tu vois c'est...
Non mais l'humanité par l'eau, hein. Là c'était pas l'eau. Hein.
En plus, d'accord, donc du coup non, ça va, ça rentrait pas dans sa promesse de ne plus anéantir.
Et comment,
comment
on déduit que les 40 jours intermédiaires,
ouais.
Les dînes, n'étaient pas récèdes. Parce qu'on dit que les premiers 40 jours, les derniers 40 jours, c'était bon, mais pas
exact.
Les intermédiaires.
Bah oui c'est normal, parce que pendant la période de Teshuva, c'est ouais. Le dîne qui est là, c'est le dîne. Le dîne est là, et on attend de voir comment tu réagis. Si tu fais le parcours nécessaire de teshuva, alors du coup, le dîne, il se transforme en rachamim. D'accord ? Donc, tout ça pour nous dire quoi ? Tout ça pour nous dire quoi ? Que ce que l'on appelle nous kol nidré, et qui prend comme ça tellement d'emplacement dans le collectif du mémoriel du peuple d'Israël, c'est que, même si halachiquement, effectivement, on ne sait pas trop ce que ça représente ce kol nidré, et qu'est-ce qui vient vraiment annuler, mais en tout cas, on peut trouver comme ça un petit clin d'œil à la fameuse Atarat Nedarim faite par Moshe à Kadosh Baruch Hu. Et donc, se tenir comme ça tous les ans à Kol Nidre, en ayant en tête cet enseignement, c'est un truc incroyable. Ah, ça donne une profondeur, d'accord, au texte du Kol Nidre qu'on va réciter. C'est-à-dire, on se met exactement dans la peau de Moshe Rabbeinu face à Kadosh Baruch Hu, d'accord.
C'est quand même dommage que dans ce Kol Nidre, maintenant qu'on connaît ce Midrash,
ouais.
On ne rajoute pas au moins le passage, s'il y a bien un passage dans la Torah,
où Moshe dit où Dieu va dire qu'il va exterminer le peuple, et ouais. Moshe va le contrecarrer. Là, on a détaillé, mais dans la Torah, c'est une phrase.
C'est ça, bah oui, mais c'est... Mais oui.
On aurait peut-être dû la rajouter.
Ah, Fatak, parce que c'est peut-être ça la force de nos Chachamim, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, on n'a pas été jusqu'à dire que le texte de Kol Nidre, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est une allusion à ça. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que... D'accord? Ne sortez pas de là en disant « Ah, on a appris que le Kol Nidre, c'est ça. » Ce n'est pas ça, le Kol Nidre. D'accord? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est une allusion. Ça peut nous renvoyer à cet enseignement qui, lui, l'enseignement, il est clair, officiel, c'est un midrash de nos Chachamim. D'accord? Cet enseignement-là, il... Voilà. Quand on fait Kol Nidre, on peut se dire « Ah tiens, peut-être que ce qui vient instaurer ce Kol Nidre, c'est une invitation à se rappeler... de la Tarat Nedarim que Moshe a fait à Kadosh Baruch.
C'est une des...
D'accord. Oui, bien sûr, Prada. Ouais. Mais l'interprétation en elle-même, attention, hein, qu'on ne se trompe pas de catégorie, l'interprétation en elle-même, c'est les Chachamim. Je n'ai pas touché à ce qu'on dit les Chachamim. J'ai juste dit que c'est peut-être une allusion au Kol Nidre que l'on fait. Parce que ça rentre bien, d'accord. Et que c'est kasher, l'enseignement, c'est celui de nos Chachamim. Et juste la dernière phrase, c'est pas grave. Juste la dernière phrase, écoutez ça. La dernière phrase. Dans le Tehilim du mercredi matin. Oui. Dans ce Tehilim-là, il y a un passouk où on nous dit Miyakum li im mereim.
Mais c'est, il triche, il s'appelle David.
Il fait les signes.
C'est ça qui les a écrits, ça va.
Mi yitiatsev aim poale aven. Tenez-vous bien, ce verset-là, nous disent nos maîtres, c'est l'oraison funèbre que Dieu a prononcée à la mort de Moshe. Incroyable. On a l'oraison funèbre qu'Hachem a prononcée à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Je répète le pasouk. Quoi? Non, pose pas cette question, Laurent, non. Non, tu viens de nous faire tomber, là, on était en train de... Ah là là, tu nous as mis un poids lourd, là. Ah, mais sortez-le. Non. Mais non, c'est nos Chachamim. C'est la force de nos Chachamim.
On peut reprendre le...
Bien sûr. Donc, nos Chachamim... Mais attends, donc nos Chachamim nous disent... Non, mais de la même façon que quand on te dit... on a fait un cours sur ça. Que quand je te dis que le Echet Ra'il... qu'on récite tous les vendredis soirs, que c'est le Hesped que Abraham a récité à l'égard de sa femme. Tu vas dire, ah, mais d'où on le sait? C'est la tradition de nos Chachamim.
C'est mes forages.
D'accord. Mes forages, non, mais non, c'est notre tradition.
Non, mais c'est
la fin
clair.
De Michelet, si je me trompe pas.
Oui, bien sûr. Donc, je reprends. Oh, laisse-nous monter.
Je lui demandais.
C'est ça.
Nos maîtres nous disent que dans ce verset-là, il y a la phrase, le Hesped, l'oraison funèbre que Dieu a prononcée à l'égard de Moshe. Je répète le verset. Mi yakum li im mereim, mi yitiatsev li im poale aven. Il nous dit, la vie de Moshe, c'est ce verset-là. Mi yakum li im mereim. Qui se tiendra à mes côtés? Le im ici, il faut le comprendre, contre. Qui se tiendra à mes côtés contre les mécréants? Mereim, ça vient du mot ra. Il dit, Hachem, il dit, Moshe, il était top. Dès qu'il y avait quelqu'un qui se levait contre moi, dès qu'il y avait de l'idolâtrie, dès qu'il y avait des gens qui voulaient se révolter contre le système de la Torah, etc., Moshe, un fidèle compagnon. D'accord? Quoi qu'il arrive, il était tout le temps à mes côtés. Ça, c'est Moshe. Attends une seconde. J'ai pas fini le Hesped. Le verset, il continue en disant « Mi yitiatsev li impoale aven » et qui
se dresse
avec effronterie. Yitiatsev, c'est effronter. Qui se lève, se dresse avec effronterie contre moi avec ceux qui font des fautes. Pour aller à Aven, ceux qui font du Aven. Aven des fautes et des erreurs, etc. Des mauvais gestes. Et on dit, c'est aussi Moshe qui se tient contre Dieu pour s'associer aux mécréants.
Pour défendre.
Pour Hazak. Dans le sens de pour défendre les mécréants. Et là, de qui il s'agit? C'est toujours Moshe mais pour défendre le peuple d'Israël. Des fois, le peuple d'Israël commet des fautes, et Moshe, il se tient avec eux contre moi pour les défendre. C'est ce qu'il a fait
aussi
avec le veau d'or.
C'est ce qu'il a fait aussi avec Abraham avec
Sdom. Oui, mais avec Sdom, on s'en fout. Mais là, c'est avec le veau d'or, c'est pour le peuple d'Israël.
Abraham, il a fait avec Sdom.
Oui.
Moshe, il a fait avec le peuple.
Chazak. Oui. D'accord, donc on a le plus grand espède d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi, vis-à-vis de Moshe? C'est que Moshe, des fois, effectivement, il est à mes côtés. D'accord, il est à mes côtés pour tenir bon, pour défendre la Torah, etc. Contre Datan et Aviram et contre Korach, etc. Mais des fois, Moshe, effectivement, sa grandeur, c'est qu'il se tient contre Akadosh Baruch Hu. Il se tient contre lui, il tient tête, il est effronté, etc. pour défendre le peuple d'Israël. Et ça, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on pourrait dire, ah, quand même, c'est pas bien, Hachem, il n'a pas aimé ça. En réalité, Hachem, c'est tout ce qu'il attendait de la part de Moshe. Il attendait qu'il se mouille.
Tout l'inverse de
et qu'il reste avec et qu'il reste avec son peuple pour le défendre.
Pas,
et ça, c'est incroyable.
Il continue pas, Moïse dans le ciel, Moïse
dans le... Ah, de quoi nous défendre? Ah bah si, bien sûr. Heureusement. Bien sûr, ouais, c'est ça. D'accord, donc finalement, on a ce Moshe qui a une double casquette. Il a la casquette de la défense de la Torah, c'est évident, de l'honneur de la Torah. Mais il a aussi la capacité, quand il le faut, à se mêler à nos problèmes à nous pour prendre notre défense. Et ça, c'est la grandeur de Moshe. Et Hachem, il en est reconnaissant. Et son esped, c'est le psaume donc, du mercredi matin.
Les deux sont liés.
Les deux sont liés. La grandeur, c'est ça.
Et il y a après des gens qui sont levés contre Dieu. Enfin, levés contre Dieu. Dans ce sens-là,
jamais avec autant de, d'audace.
Pas autant de...
Ouais, ouais. Exactement. Jamais avec autant d'audace. C'est une audace terrible.
Ishaya.
Ouais, toujours un peu les prophètes, les machins, mais pas comme Moshe, quoi. Moshe, c'est, il voilà, il s'est mouillé.
À la fin de
Shemot, il
t'a dit,
mais
pourquoi tu fais du mal à ce peuple?
Ouais. Oui, ok, d'accord. Ça, parce qu'il a été trop loin, il a mis le mot ra. Il a attribué la méchanceté à Dieu. Ça, c'est une erreur.
Mais par contre, je crois que Moshe, c'était la rigueur par rapport à
ce qu'on
s'est perdu.
Eh ouais, mais en réalité, Moshe, c'est oui la rigueur dans son, dans sa vision générale. Mais lorsqu'un problème éclate et qu'il y a une décision comme ça de décret d'anéantissement du peuple d'Israël, il laisse tomber ça et il revient. D'accord, parce que son peuple, il aime tellement que, même si, voilà, dans sa nature, c'est pas son truc. Mais il se dit, bon, on peut pas rester sans le peuple, quoi.
C'est une des raisons pourquoi on dit.
Ouais, exactement.
C'est pour ça qu'on dit une des raisons où on dit Hachem ou Elohim.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
C'est comme le gosse du futur.
Radak.